7h42, en temps universel, RFI Matin Suite et Fin, un nouveau journal dans moins de 20 minutes. Et le point à nouveau, bien sûr, sur les frappes israéliennes en Iran cette nuit, à suivre d'ici là notamment l'un des enjeux de la conférence de l'ONU sur l'océan qui s'achève aujourd'hui, l'érosion côtière qui frappe notamment la Sierra Leone. C'est notre reportage Afrique. Et tout de suite les sports. Avec vous Antoine Grenier, le football pour commencer en Guinée, choc au sommet du championnat.
Le Hafia, deuxième au classement face au Royal, leader avec 8 points d'avance. À 5 journées de la fin, ce grand derby de Conakry pourrait constituer un tournant décisif, notamment pour le Royal en quête de rachat depuis plusieurs saisons. Tiernoya Diallo.
C'est sans doute le match le plus important de la saison pour le Royal de Conakry et les Rouges et Blancs n'ont jamais été aussi proches du titre depuis deux saisons. Mais attention en face, il y a le Hafia, vice-champion guinéen en titre et plus sérieux concurrent. Noun Diané, ancien coach du stade malien de Bamako, aujourd'hui sur le banc du Royal.
On est tous conscients de l'enjeu et c'est le message que nous avons transmis aujourd'hui. C'est une obligation pour nous quand même de faire un bon match. Cela veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas perdre quoi. Donc c'est un match qui est important et ça nous permettra quand même de rester sur cette dynamique-là. Nous espérons que les choses vont mieux se passer.
Dans le dur depuis deux ans, le club de la proche banlieue de Conakry a dû se réinventer. Entre difficultés financières et interdiction de recrutement infligée par la FIFA, il a fallu trouver l'équilibre pour un retour en force aux affaires. Soufiane Soare, président du club.
Entre les académiciens et l'équipe première, ça s'est fait de manière stratégique, ça s'est fait de manière intelligente parce qu'on travaille sur ce projet il y a cela maintenant un peu plus de 10 ans. Les fruits de cette académie commencent au jour d'aujourd'hui à émerger au niveau de l'équipe première. Ils sont en train de faire de très belles choses au niveau de l'équipe première.
Le savant mélange entre quelques anciens qui sont restés fidèles et les jeunes issus du centre de formation a permis au Royal de réaliser jusqu'à présent une belle saison et une victoire ce vendredi lui rapprocherait davantage du titre. Tiernoya Diallo, Conakry, RFI.
En cyclisme, Antoine, repos pour les coureurs du Tour Cameroun ce vendredi.
Au lendemain d'une 8e étape remportée par l'Allemand Jan Munzer qui s'est imposé au terme des 160 km courus entre Douala et Kribi, le maillot jaune reste l'apanage du Camerounais Boris-Michel Tianche, 12 secondes devant l'Algérien Islam Mansouri. Une étape délicate pour le leader du général et son équipe.
On a eu vraiment très chaud. Si mes chapeaux étaient créés juste après ma crevaison, les aviations n'ont pas été faibles parce qu'ils ne devaient pas passer à l'attaque tant que le maillot jaune n'a un problème. Je suis revenu et trouvé qu'il y avait du désordre et c'est parti. Directement, je suis allé causer avec mon capitaine à Vesselo et il a fallu qu'on fasse monter les éléments pour pouvoir rouler. Dieu merci, ils étaient encore en jambes et en surnom, ce qui a permis à ce que nous puissions réduire vraiment l'écart. Et on avait deux coureurs bien classés aussi devant qui pouvaient jouer la gagne d'arrivée. Bon, on a entendu une victoire vraiment aujourd'hui. Nous sommes habitués plus aux longues étapes, l'étape du vieux, juste l'enrobé qui n'était pas très très bon et qui nous a causé vraiment beaucoup de dommages. Mais après, tout ça, c'est allé. Dieu merci, on a pu traverser les obstacles-là avec beaucoup d'éléments.
Boris-Michel Tianche avec Joël Wedem.
Et enfin, en athlétisme, plusieurs performances africaines notables au meeting d'Oslo en Norvège.
Sous les yeux de monsieur Usain Bolt, guest star de la soirée, l'ivoirienne Marie-Josée Talou a pris la deuxième place du 100 mètres. Seule la championne olympique de Sainte-Lucie, Julianne Alfred, est parvenue à la devancer en 10 secondes 89. Chez les messieurs, sur le 800 mètres, victoire d'Emmanuel Wanyoni, champion olympique en titre en 1 minute 42-78. Le Kenyan a fini devant le français Gabriel Tual et l'Algérien Jamel.
Déception en revanche pour Hugues Fabrice Zango.
Le triple sauteur burkinabé, seulement 7e du concours avec un 3e essai à 16,56 m, 17 cm derrière l'Algérien Yasser Triki et à 78 cm du vainqueur, le Jamaïcain Jordan Scott. Zango qui aura l'occasion de revenir sur cette performance puisqu'il sera l'invité d'honneur de l'émission Mondial Sport ce week-end sur RFI.
Et c'est bien noté, merci Antoine Grenier.
RFI à Freetown, 89.9 FM.
C'était l'un des grands enjeux de la conférence des Nations Unies sur l'océan qui se referme aujourd'hui. Comment faire face à l'érosion côtière quand la montée des eaux vient ronger les terres en bord de mer? La question se pose notamment en Afrique de l'Ouest et en Sierra Leone, l'un des pays les plus touchés au monde par ce phénomène. Près de 2 millions de personnes établies le long des côtes encourent le risque de perdre leur habitation et leurs moyens de subsistance. Et la montée des eaux est particulièrement inquiétante pour ceux qui vivent sur les îles au large de la Sierra Leone. Nous partons sur l'île Plantin, au sud de la capitale Freetown, où des dizaines de bâtiments ont déjà disparu. La terre s'y réduit chaque jour un peu plus. Reportage Lisa Fabian.
La terre sablonneuse semble avoir fondu à force d'être léchée par les vagues. Le rivage s'enfonce maintenant à pic dans l'océan. L'érosion de la côte a déjà emporté une partie de l'école de Plantain Island. L'extrémité du bâtiment est détruite et frôle le vide. Le professeur Ibrahim Tarawali se remémore son arrivée sur place il y a presque 20 ans.
Beaucoup d'entre nous sont venus ici depuis le nord pendant la guerre civile. Et maintenant, cette île est en train de disparaître à cause de l'érosion et des intempéries. Oui, j'ai peur. Regardez cette école. Une salle de classe et le bureau du principal sont tombés dans la mer. Graduellement, l'île rétrécit de plus en plus. Et quand elle disparaîtra, il faudra bien partir.
La population était initialement de plus de 5000 personnes, il n'en resterait plus que quelques centaines. En contrebas, les vagues turquoises viennent se briser à quelques mètres seulement d'une petite mosquée bleue. Autrefois, ce bâtiment se trouvait au centre du village. L'imam Djibril Aladji Kamara continue d'y diriger la prière.
Une partie des murs s'est déjà effondrée. Alors les gens viennent encore prier, mais ils ont peur. Alors quand la marée est haute, les fidèles prient vite, vite, le plus vite possible avant de repartir.
Une voisine s'approche. Kadiatou Diallo porte un long voile noir qui recouvre son corps sec. La vieille femme originaire de Côte d'Ivoire pointe la surface lisse de la mer.
Avant, on pouvait marcher jusqu'à la petite île, tout là-bas. Il y avait une route, des maisons et une autre mosquée. Mais tout a disparu. Et juste là, c'était ma maison. Nous vivions de manière très confortable. En fait, on ne pouvait même pas entendre les vagues quand on dormait. Il y a des années, d'ici, on ne pouvait même pas deviner qu'on vivait sur une île. On ne voyait même pas la mer.
L'Agence pour la protection de l'environnement en Sierra Leone et l'Organisation internationale pour les migrations ont mené récemment une étude pour voir comment améliorer la vie des habitants sur place. Henry David Bayo est consultant pour l'agence gouvernementale.
Pour ceux qui veulent rester sur l'île, il faut prendre des mesures de protection. Par exemple, on réfléchit à la manière dont on pourrait restaurer les mangroves qui entourent l'île, parce que cette végétation permet de ralentir l'érosion et de protéger la côte.
Une bonne partie des habitants de l'île Plantain n'ont tout simplement nulle part d'autre où aller, ni même les moyens de quitter leur habitat en plein déclin. Lisa Fabian, de retour de Freetown, RFI.
Notre reportage Afrique à retrouver sur RFI.fr et notre application Pure Radio.
RFI Matin.
Et c'est un autre rendez-vous international qui dure jusqu'à demain à Paris, le salon Vivatech, plus grand événement européen dédié au numérique et aux start-up, et où les start-up africaines cherchent à sortir du lot, de plus en plus nombreuses. Elles viennent du Sénégal, du Nigeria, de Côte d'Ivoire, du Congo, quasiment toutes témoignent de leur difficulté à trouver des financements, car développer une start-up technologique coûte cher et les investisseurs sont de plus en plus frileux. Afrique Économie, Alexis Bédu.
Comment être certain que ses enfants sont bien arrivés à l'école? L'idée de Magatsila est simple. Au sein de sa start-up Kitus, il a créé un dispositif de pointage biométrique.
Quand l'enfant se présente, l'élève, l'apprenant au niveau de l'établissement, il pose son doigt sur le dispositif. Et dans la seconde qui suit, le parent reçoit un SMS.
Et il le teste d'ailleurs dans plusieurs établissements dakarois. Ce pitch, il le répète toute la journée à Vivatech, auprès d'autres start-upers et auprès de potentiels investisseurs qui font ce qu'on appelle le due diligence, une analyse poussée du projet avant de signer le chèque.
On ne peut pas aujourd'hui avoir un contact d'investisseur et avoir les investissements tout de suite. Ça prend du temps. Donc moi, pour moi, c'est l'ordre normal des choses. Mais ce qui est sûr, qu'on tombera sur la bonne porte pour lever le million de dollars qu'on est en train de rechercher.
Mais les grosses levées de fonds sont de plus en plus rares. Les investissements ont baissé et l'Afrique a bien du mal à les attirer. Yaya Koné en est à sa deuxième start-up en Côte d'Ivoire. Et c'est difficile de trouver des financements pour les jeunes pousses du continent.
Quand on va investir dans une start-up africaine aujourd'hui, voilà, je suis un investisseur, je vais attendre en retour sur investissement 3, 4 ans, 5 ans, et j'attends un multiple de l'investissement par 3, par 4. Ça, c'est le classique. Ça ne marche pas en Afrique, malheureusement. Parce que bah, finalement, on n'a pas encore un cadre réglementaire. Il y a beaucoup de choses à faire. Comme je dis, par expérience, quand on va regarder aujourd'hui, que ce soit au Nigeria, en Égypte ou au Kenya, c'est vrai, on a quand même on a quelques licornes africaines. Comparé à ce qui s'est fait au niveau mondial, c'est vraiment une goutte d'eau dans la mer. Donc, pour que ça soit un peu plus massif, Voilà, il faut vraiment regarder l'approche de l'investissement de nos startups.
Des investisseurs frileux au risque, mais certains États africains profitent des 3 jours de VivaTech pour mettre en avant leurs champions nationaux et donner confiance aux financeurs très nombreux à Paris pour cet événement tech.
Afrique Économie, Alexis Bédu, et bientôt 8h en temps universel. On se quitte en musique, comme chaque matin. Avec peut-être, sans doute, la plus belle voix du rap français d'aujourd'hui dans notre choix musical ce matin. Bonjour José Marinho.
Bonjour Julien, on adore.
2 ans après avoir fait sensation sur la scène internationale, c'est vrai qu'on adore le français d'origine camerounaise Yamé. Il publie aujourd'hui son tout premier album intitulé Ebem.
Sa voix de tête fait une nouvelle fois mouche sur ce disque de 14 titres introspectifs, véritable journal intime chanté en pleine conscience. Yamé, 32 ans, un drôle de zigzag, d'abord gestionnaire de données data, puis diplômé d'histoire, il bifurque et choisit finalement la musique. Alors, il apprend seul, en jouant dans des clubs parisiens la nuit, là où il puise une énergie brute. En 2023, le titre Bécane devient viral, Internet s'emballe, le public suit, et l'artiste est propulsé dans la cour des grands, décrochant le prix Révélation masculine aux victoires de la musique avec ça.
José, le nouvel album de Yamé s'appelle donc Ebem et il se centre sur le sens de la vie.
Et en guise d'ouverture, une voix familière pose le décor.
C'est un lieu sacré, Ebem. C'est un lieu sacré où les gens se rencontrent pour apprendre des choses. Dans l'Ebem, ça veut dire dans le cercle de la famille, mais c'est aussi le lieu de pratique.
Et même un lieu sacré où l'on apprend des choses avec les anciens. Cette voix qu'on entend, c'est celle du père de Yamé, sénégalo-camerounais.
Oui, son père qui est aussi musicien. C'est un disque de transmission. C'est aussi un voyage initiatique, celui d'un artiste né en banlieue parisienne, grandi entre le Cameroun et la France, tiraillé entre ses doutes et ses contradictions. Yamé cherche surtout à être en accord avec lui-même et ses valeurs. Sur le morceau « Shoot » qu'on a entendu au tout début, il se questionne sur son addiction aux psychotropes. Dans le titre qui va suivre, Solo, il écrit sa volonté de se retrouver pour trouver sa place dans ce monde.
Faut que je me casse d'ici. Faut que je me casse d'ici. Dans ma tête, je suis déjà ailleurs. Ailleurs. Seul dans ma piscine. Seul dans ma piscine. Je dois nager comme aux ailleurs. Ailleurs.
Voilà, allô Julien. Et même ce sera rééquilibre entre modernité et tradition. Une voix singulière qui navigue entre chansons françaises, jazz, blues, rap, portée par les racines africaines d'un héritage paternel précieux. Voilà, un album où le passé éclaire le présent et trace la voie vers l'avenir.
Et un album que Yamé va partir défendre en tournée française à partir du 25 octobre. Française et européenne d'ailleurs. On écoute un dernier titre, Bizarre.
Tu refuis, tu reviens.
Lazare signé Yamé, son nouvel album, Ebem, son premier album.
Premier album, ouais.
Sort aujourd'hui. Merci José Marinho.
Merci Julien, rendez-vous.
Rendez-vous au mois
la
de novembre.
Philharmonie,
c'est au mois de novembre, j'ai plus la date en tête. Merci à vous. Bonne journée. RFI Matin se termine et je remercie Jean-Pierre Pellon à la réalisation de ces 3 heures. La suite, ça se passe avec vous, Juan Gomez. Bonjour.
Bonjour Julien Coquel-Royem. Bonjour à toutes et à tous.
Au programme d'Appel sur l'actualité.
Eh bien, comme tous les matins, nous allons commencer avec les questions sur l'actualité. Ce matin, on nous interpelle sur les prisons secrètes du groupe paramilitaire russe Wagner au Mali. Des questions également sur les violences policières au Kenya après la mort d'un blogueur dans un commissariat. Voilà donc un petit aperçu des 30 prochaines minutes. Julien Coquel-Royem, bonne journée.
Bonne journée, Juan.
À demain, 5h temps universel.
À demain, avec plaisir.
Dans moins de 2 minutes, le journal international. Restez avec nous.
Priorité santé.
Raphaël Constant vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Comme chaque vendredi, une émission de santé au féminin. Comment lutter contre la sédentarité? Quelle activité physique choisir selon sa condition physique?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
La France Music Week, c'est du 16 au 21 juin. Une semaine internationale pour la musique partout en France. Avec au programme des co-créations, des sessions d'écoute, une journée dédiée à l'innovation et aux nouvelles technologies, des rencontres professionnelles et un grand concert de la fête de la musique. France Music Week, du 16 au 21 juin. Plus d'informations sur france-music-week.com. Un événement du ministère de la Culture et du Centre National de la Musique. En partenariat avec France Média Monde.
L'épopée des musiques noires.
La chanteuse franco-togolaise Laura Prince veut embrasser l'entièreté de son être et jouir pleinement de ses racines multiples. Son album Adjoko est le fruit de cette quête identitaire qui l'a conduite sur la terre de ses aïeux au Togo, où elle s'est plongée dans le patrimoine sonore local, a accueilli les rites et codes régionaux et s'est révélée à elle-même. Découvrons-la dans L'épopée des musiques noires avec Joe Farmer, samedi à 13h30 TU.
RFI.